enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Maintenant, s'intitule « À quoi penses-tu ?» Et nous allons trouver dans le livre des Proverbes notre texte de base. Proverbe 23 au verset 7. Proverbe 23 au verset 7 nous dit « Car il est comme les pensées de son âme ». Dans le contexte, il est dit, bon, si tu es invité chez quelqu'un, fais attention, parce que nous savons que 1 Corinthiens 15 nous dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, selon les personnes avec qui on s'associe, on peut recevoir une influence. Et alors, il dit, attention, car il est, celui qui t'invite, comme les pensées de son âme. Mais sans parler maintenant de ça, gardons simplement cette expression. Nous sommes, parce que c'est le cas pour tout le monde aussi, nous sommes comme les pensées de notre âme. Nous sommes le résultat de ce que nous pensons en permanence. Les pensées. C'est tellement important de voir ce que nous pouvons penser parce que Dieu nous a donné cette capacité d'intelligence. On voit les inventions que les hommes arrivent à faire. On a l'impression que ça y est, ils ont atteint un plafond à chaque progrès technologique. Les gens pensaient, mais non, ça c'est une... Quand les premiers trains à vapeur sont venus, quelle vitesse folle, jamais les gens supporteront. Il y a certains qui pensaient même que les gens allaient mourir au-delà d'une certaine vitesse. Et c'est une vitesse qui nous semble maintenant peut-être ridicule. Ils ont dit à 40 km/h ou à 50, les gens ne vont plus supporter. Mais toutes ces choses, on voit qu'on les a largement dépassées. Les ressources qui sont en nous, dans nos pensées, sont quasiment infinies. Quasiment infinies. J'aimerais vous partager quelque chose en introduction à la pensée qui se trouve dans Genèse 6. Genèse 6, que lisons-nous dans Genèse 6? Les érudits de la Bible se disent, ah oui, c'est l'arche de Noé. Genèse 6, juste avant que Dieu donne l'appel à Noé de construire l'arche, avant qu'il y ait le déluge, eh bien voilà ce que nous lisons dans la parole de Dieu. Au verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Vous vous rendez compte? Chaque jour. Uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Vous pouvez beaucoup poser des questions. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Est-ce que c'est Dieu qui est celui que nous avons l'impression qu'il est, celui qui cherche maintenant à détruire sa créature? J'ai entendu un certain nombre d'émissions qui ont été faites par le docteur Karl Bow, qui est un savant, et qui a réuni avec lui plus de 400 diplômés dans toutes sortes de matières scientifiques. Et ils ont créé le musée de la création. Et dans ce musée de la création, ils ne veulent pas simplement bêtement prouver que la Bible dit ce qu'elle dit, mais qu'ils recherchent dans la parole de Dieu, dans le texte original, en hébreu, ils recherchent le sens précis de chaque mot, et ensuite, ils recherchent dans les disciplines scientifiques pour voir comment, eh bien, ces disciplines confirment la parole de Dieu. Ainsi, il a rassemblé tout un collège de personnes avec lui, et ces gens font des recherches d'abord dans la parole de Dieu. Parce que souvent, on a fait l'inverse. On a dit, bon, bah, la science, ça c'est intouchable. Ça c'est la vérité. Maintenant, essayons de faire coller la Bible à la science. Mais eux, ils ont eu une démarche qui est inverse. Ils ont dit, la Bible, c'est la vérité. C'est la parole de Dieu. Et donc, il faut que la science s'aligne avec la parole de Dieu. Vous voyez ? Il y a une nuance dans les deux. C'est l'approche. Et c'est la même chose pour votre vie et notre vie. Si nous disons, ma vie, elle est comme ça, et maintenant, essayons de faire rentrer Jésus là-dedans. En général, ça ne marche pas. Ça donne des piètres résultats, des petits progrès. Mais si nous donnons notre vie tout entière à Jésus, nous le laissons la transformer, ça ne veut pas dire qu'on ne fera plus certaines choses que nous avons fait ou que nous aimons faire. Mais ça veut dire que c'est la démarche qui est toute différente. Eh bien, ces scientifiques, donc, ils ont étudié dans la parole de Dieu et ils ont trouvé un certain nombre de choses. Tout d'abord, concernant les pensées, notre cerveau, la façon dont il fonctionne. Je ne vais pas vous faire un cours maintenant sur le fonctionnement du cerveau, simplement vous donner quelques notions qui seront importantes pour nous. Ils ont fait des études du sommeil. Ils font des études du sommeil, ils voient qu'il y a des ondes, ceci, cela, il y a des périodes, on appelle sommeil profond, et d'autres, bon, on est en phase réveil, d'autres choses. Je ne rentre pas dans les détails. Simplement, le fait que, d'après les études scientifiques, ils ont trouvé, effectivement, qu'il y a des ondes. Nous sommes dans un monde où il y a beaucoup d'ondes. Par exemple, le fait que vous entendiez ma voix, c'est simplement que mes cordes vocales, eh bien, quand elles bougent, elles mettent en route des ondes que le Seigneur a fait que vos tympans soient capables d'entendre ça et de l'analyser, et votre cerveau le transforme à nouveau en mots, et ça correspond à des images, et vous êtes capable, ainsi, sans le savoir, eh bien, nous avons là un instrument de communication. Eh bien, il y a beaucoup d'autres choses. Connaissons les ondes radio, électromagnétiques, de toutes sortes. Eh bien, notre cerveau aussi émet des ondes en permanence. Parce que nous sommes dans un monde qui est fait de cette façon. Et quand il est dit que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal, eh bien, ces gens ont dit, donc ces scientifiques, le fait qu'il y ait eu sur Terre tous ces êtres humains qui avaient tous ces mêmes pensées uniquement orientées vers le mal, eh bien, cela a créé un cataclysme au niveau du noyau de la planète Terre. Nous ne sommes pas dans un roman de science-fiction, nous sommes là dans une interprétation des événements qui se sont produits, que la Bible nous décrit, et qui sont plausibles, qui tiennent debout avec la parole de Dieu. Et que s'est-il passé à ce moment-là? Eh bien, ce qu'il s'est passé, c'est que lorsqu'il y a eu ce séisme, si vous voulez, ou peu importe, au niveau de la parole, au niveau du noyau de la planète, eh bien, dans Genèse 7 et verset 10, les eaux du déluge furent sur la terre. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. Les sources du grand abîme. Où est-il, le grand abîme? Est-ce que c'est quelque part dans le cosmos? Il y avait là un château d'eau de la part que le Seigneur avait préparé, je ne sais pas à quelle distance de la planète Terre, et ce jour-là, il a ouvert les vannes et ça a coulé jusque vers Terre. Non. Le grand abîme, un abîme, c'est en dessous. D'accord? Un abîme, c'est en dessous, c'est un trou. Eh bien, il y a actuellement sur Terre d'immenses cavernes, des trous, il y en a beaucoup. Il y a des endroits sur Terre où il y a des trous, des crevasses. Il y a des endroits qui seraient des trous s'ils n'avaient pas été remplis par l'eau de nouveau. Mais il y avait de l'eau souterraine. D'ailleurs, pour Adam et Ève, quand ils étaient dans le jardin avant la chute, ils ne savaient pas ce que c'était la pluie. Ils n'avaient pas connu la pluie. Il n'y avait pas le cyclone de tornade. Il n'y avait pas de mauvais temps, comme on dirait nous. Il n'y avait pas de nuages non plus. Tout cela n'existait pas. Le problème des gens, c'est qu'ils veulent toujours étudier la parole de Dieu par rapport à tout ce qu'ils voient de leurs yeux. Alors ils disent, la terre est comme ça, donc forcément, elle était comme ça autrefois. Ils regardent un grand canyon aux États-Unis, par exemple, et puis ils voient le filet d'eau qui est en bas, et puis ils calculent le temps qu'il a fallu à cette petite rivière qui est au fond pour creuser tout ça. C'est des calculs qui ne marchent pas, parce qu'ils n'ont pas la révélation de la parole de Dieu. Mais nous, nous avons besoin de voir que dans la Bible, tout est écrit. Les sources du grand abîme. Quand, à cause de toutes les mauvaises pensées des hommes, uniquement tournées vers le mal, eh bien, il y a eu ce phénomène au niveau du noyau de la terre, eh bien, il y a eu des jets d'eau qui ont jailli, qui sont sortis de la terre. Et ils sont sortis tellement haut qu'ils ont fait quoi? Ils ont jailli jusque aux écluses des cieux. Les écluses des cieux, c'était les eaux d'en haut. Il y avait les eaux d'en bas, celles qui étaient en dessous, et il y a aussi les eaux d'en haut. Dans Genèse 1:6, il est dit, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. D'accord? Il y avait donc de l'eau qui était au-dessus et de l'eau qui était en dessous. Et l'eau qui était au-dessus, c'était pas sous forme de nuages. C'était, on pourrait l'appeler de cette façon, c'était le firmament. Il y avait un firmament qui recouvrait toute la terre. Et la terre, il y avait un firmament qui recouvrait toute la terre et qui faisait qu'il y avait une protection. Le Seigneur avait créé une planète qui était merveilleuse. Un paradis terrestre, on pourrait l'appeler. Il n'y avait pas toutes ces perturbations de temps. Il n'y avait pas à l'époque de dérive des continents qui provoquent des tremblements de terre et des failles et de je ne sais quoi. Ces choses n'existaient pas. C'était un paradis. Il n'y avait pas de problème de brûlure du soleil. Maintenant, c'est encore pire, puisque par la pollution, de plus en plus, nous détruisons la protection qui restait encore. Je dis restait, parce qu'avant, c'était encore beaucoup mieux. Mais ce firmament qui était autour de la terre protégeait l'homme. Et ce firmament, il était fait de quoi? Et c'était un mélange de plusieurs matériaux. Il y avait, comme on l'a lu ici, de l'eau. Il était composé d'eau. Il y avait de l'eau. Et ça serait trop long pour rentrer dans tous les détails. Il y avait aussi de l'or. De l'or pur, à un tel degré qu'il devient transparent. Il y a de la matière qui devient transparente. Vous saviez ça, hein? Alors regardez par la vitre. C'est de la matière, c'est pas de l'air. Et pourtant, ça devient transparent. Comment a-t-on fait ça? Eh bien, c'est la purification. Et en chauffant, eh bien, on a réussi à faire ça. Eh bien, l'or est aussi une matière avec laquelle on peut atteindre un degré de transparence par la pureté. Donc, il y avait ce firmament, et ce firmament, composé d'eau, composé de matière comme de l'or, eh bien, était non seulement une protection, mais en même temps, elle avait les mêmes caractéristiques qu'une station de réception radio. Ainsi, quand la Bible parle du champ des étoiles, eh bien, ça veut dire que les étoiles qui, elles aussi, émettent des ondes, des rayons, des bruits, hein, qui sont enregistrés par les scientifiques, eh bien, selon la façon dont vous le recevez, c'est de la musique. Et tout cela est dans la parole de Dieu. Et c'est ce que ces gens pouvaient expérimenter. Ils étaient dans un univers merveilleux, où il y avait une teneur en oxygène beaucoup plus grande que ce que nous avons maintenant. Et l'oxygène est très importante pour le cerveau, pour le fonctionnement du cerveau, ce qui explique aussi leur longévité. Pourquoi Adam il a vécu 900 ans, et ce qui explique leur haut degré d'intelligence aussi. Et on a vu que, au travers de certaines expériences, qu'il y a des gens qui sont nés, par exemple, avec un problème à la naissance. Et il y a un exemple qui est cité, c'était un enfant qui est né avec un problème à la naissance. Il y a une partie de son cerveau qui a été moins irrigué et approvisionné en oxygène. Par contre, il y en a une autre qui a été suralimentée. en oxygène, eh bien ça fait que c'est un enfant handicapé qui, dans la vie de tous les jours, est handicapé dans beaucoup de choses, mais qui est un génie en mathématiques. La partie du cerveau qui correspond à la logique, à la réflexion mathématique, elle est développée de manière extraordinaire. Et cela nous confirme encore toutes les choses que nous savons et que nous croyons concernant Adam et Ève, tels que Dieu les avait créés à l'image de Dieu, avec des capacités extraordinaires, mais qu'ils ont hélas perdu à la chute. Et non seulement la chute, ils ont perdu des choses, mais encore à cause des conséquences. Le péché et les pensées uniquement tournées vers le mal ont encore provoqué des chamboulements qui ont fait que maintenant, non seulement l'homme avait chuté, mais la création tout entière. Que nous dit Romains 8 ? La création tout entière soupire et souffre à cause de nous, je dirais, êtres humains. Dans Romains 8, il est dit au verset 18 : J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ce que le Seigneur veut faire maintenant, il y a eu le premier Adam qui a chuté, qui était l'homme naturel. Eh bien, il y a eu un deuxième Adam, on l'a appelé Jésus, le deuxième Adam, qui est venu restaurer l'humanité dans son état. Et à cause de Jésus, il y a une révélation des fils de Dieu. Il y a maintenant des gens qui peuvent devenir enfants de Dieu, et de enfants de Dieu, ils peuvent passer au stade de fils de Dieu. Tout enfant de Dieu n'est pas fils de Dieu. On a besoin, pour devenir fils, de laisser le Seigneur nous révéler tout ce qu'il attend de nous et de rentrer dans son plan. La création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Le salut de notre corps est une promesse de la parole de Dieu. Et nous pouvons, dès à présent, non pas revêtir un corps incorruptible, ça nous est promis encore, mais nous pouvons dès à présent, à cause des prémices que nous avons de l'Esprit, accéder à un niveau de vie supérieur. Moi, je le crois. Je crois que nous pouvons vivre, et c'est pour ça que le diable, eh bien, il attaque les chrétiens comme il peut, parce qu'il ne voudrait pas que nous puissions tenir ferme dans ce que nous croyons. Parce que sinon, si nous tenons ferme dans ce que nous croyons, les promesses de Dieu vont se réaliser, on va voir la révélation des fils de Dieu. Comprenez ? Qu'est-ce que c'est un fils de Dieu révélé ? Révélé, ça veut dire qu'il n'est plus caché. Vous pouvez être enfant de Dieu dans votre cœur, personne n'en sait rien. Vous pouvez avoir les mêmes problèmes que tout le monde. Problème de santé, problème d'argent, problème de relations, problème de travail. Et vous restez toujours un chrétien secret. Vous pouvez proclamer votre foi, peut-être quelques-uns vont écouter. Mais quand les fils de Dieu sont révélés, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que maintenant on peut les distinguer. C'est comme cet homme dont nous avons entendu parler, il s'appelle, je me rappelle son nom, Case Moore. C'est un prédicateur, le Seigneur l'emploie particulièrement pour enseigner la parole de Dieu. Il y a certains sujets où il est très très fort, comme par exemple la prospérité. Alors, il prêche ça, il le vit, il donne et il croit pour des retours, et il reçoit des choses extraordinaires de Dieu. Alors, dans sa cour viennent un bateau, nouvelle voiture, encore une voiture, jusqu'au moment où son voisin vient lui demander : mais qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Son voisin était en train d'imaginer, ça doit être certainement un vendeur de drogue ou un trafiquant ou quelque chose comme ça. Il ne pouvait pas imaginer qui était cet homme. Et voilà une façon où le Fils de Dieu est révélé. Pourquoi a-t-il toute cette abondance et cette bénédiction ? À cause, on pourrait dire, de la marque de Dieu sur sa vie. De la même façon que d'autres hommes de la Bible ont été marqués. Vous vous rappelez de Isaac ? On a cherché à chaque fois lui prendre ce qu'il avait. Chaque fois qu'il a cherché à creuser un puits, les ennemis venaient pour le combler. Jusqu'au moment où, par sa persévérance, il a acquis une position où les autres ont commencé à avoir de la crainte de lui. Il a dit, nous avons vu que tout ce que nous avons essayé pour lui nuire, rien n'a marché et nous voyons que Dieu est avec lui. Maintenant, on ferait bien mieux d'avoir une alliance avec lui plutôt que d'être son ennemi. Ça, c'est une révélation d'un fils de Dieu. D'accord? Et donc, ces choses veulent arriver. Ces choses veulent se révéler. Et nous voyons que, à cause des mauvaises pensées de l'homme, il y a eu toutes ces catastrophes, toutes ces conséquences. C'est le résultat du péché. Mais est-ce que l'homme veut reconnaître ça? Est-ce qu'il veut dire, oui, c'est à cause de moi? Eh bien, ça, c'est l'attitude que chacun doit avoir à un moment ou un autre, d'avoir cette attitude de repentance, de ne pas rejeter la responsabilité sur l'autre. Et maintenant, pour nous, quand nous disons que tel un homme est tel que les pensées de son cœur, nous allons voir quelles sont les pensées de notre cœur. Philippiens 4 nous dit, voilà quel doit être l'objet de nos pensées. Philippiens 4 au verset 8. Au reste, frères ou sœurs, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de vos louanges, digne de louanges, soit l'objet de vos pensées. Donc là, il nous est dit quel doit être l'objet de nos pensées. Quelqu'un pourrait peut-être dire quoi? Il faut de nouveau que je fasse tout le temps attention à ce que je pense. Eh bien, la vérité, c'est qu'il ne faut jamais arrêter de faire attention à ce que nous pensons. Et de la même façon que le monde essaie sans cesse de nous duper, de nous tromper en disant « voilà la vraie liberté, c'est de faire ce qu'on veut ». Eh bien, certains pensent aussi la vraie liberté de pouvoir penser ce qu'on veut. Ça, c'est être libre. Mais il y a une différence entre penser et avoir des réflexions, d'accord? Ça, nous sommes libres. Libres de pouvoir réfléchir, de pouvoir penser et de pouvoir prendre des décisions. Cette liberté, oui. Mais libre de nos pensées ne veut pas dire être tout le temps grand ouvert, acceptant toutes sortes de pensées qui rentrent dans notre tête. Jésus a dit, prenez garde à ce que vous entendez. Ceux qui veulent la référence, c'est Marc, chapitre 4, verset 24. Prenez garde à ce que vous entendez. Donc moi, je ne pense pas que nous soyons dans cette situation où nous avons chaque jour toutes nos pensées tournées uniquement vers le mal. D'accord? Je ne pense pas. Il y a des gens autour de nous, je pense qu'ils le sont. Il doit y avoir des gens qui, d'abord, ont commencé à accepter certaines pensées, étaient pressés de les accepter, et quand il y a une pression, une oppression, si vous préférez, au bout d'un moment, il se peut que la personne les accueille et cède, et devient alors obsédée, ne pense plus qu'à ça. Donc nous devons veiller à ce qu'aucune passion ne s'empare de nous, ou on est tellement malheureux parce que on a une pensée qui nous tient esclave. Parce que le diable ne va pas s'arrêter à ça. Il voudra aller toujours plus loin. D'abord, il oppresse, puis il veut obséder, qu'on pense plus qu'à ça. Et ensuite, la phase finale, c'est la possession. Prendre entièrement possession de la personne. Puisque les êtres spirituels, eh bien, leur façon de se matérialiser, c'est de s'emparer d'un être humain. Et alors, ils peuvent agir encore plus dans le mal. Donc, soyons attentifs à ça. Mais je pense que pour nous, ce n'est pas le cas la plupart du temps. Et que nous dit la parole de Dieu? Comment on peut réagir à ça? Eh bien, c'est le verset juste au-dessus. Ne vous inquiétez de rien. D'abord, rejetez l'inquiétude, la peur, la frayeur, peur de manquer, peur d'échouer, peur que vous ne puissiez pas faire certaines choses. Rejetez la peur, ne vous inquiétez pas. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Si vous faites ça, si vous donnez votre temps à Dieu dans la prière, eh bien vous pouvez vous débarrasser de ça. Et qu'est-ce qu'il est dit? Il y a une promesse. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et il est dit littéralement, cette paix de Dieu, c'est comme un soldat qui monte la garde autour de vos pensées. cette paix de Dieu va vous garder. N'avez-vous pas expérimenté souvent que, admettons, vous avez peu d'argent, vous n'avez pas les moyens de vous acheter quelque chose, et pourtant c'est une chose que vous aimeriez, je ne sais pas moi, renouveler la voiture ou un truc comme ça, et vous dites, mais je ne peux pas. Et vous êtes peut-être tenté alors de vous lancer dans un crédit qui va vous endetter et qui va vous mettre sous pression pendant des années. Et pendant tout ce temps que vous êtes tourmenté par ces pensées, vous n'avez pas la paix de Dieu. Mais si vous recevez la paix de Dieu, elle va monter la garde sur vos pensées. Et donc cette paix de Dieu est ce qu'il nous faut pour toutes les décisions de notre vie. En se rappelant que dans Philippiens, donc, on peut examiner nos pensées. Vous vous posez des fois la question les uns aux autres, on le fait aussi avec mon épouse, des fois, à quoi tu penses ? On pose la question comme ça. Tiens, tu penses à quoi ? Parce que on voit une personne qui est peut-être songeuse, ou peut-être un peu le front un peu plissé, réfléchissant. Alors on aimerait savoir, tiens, qu'est-ce qui se passe ? À quoi tu penses ? Eh bien, nous pouvons examiner un petit peu. Qu'est-ce que tu es en train de méditer ? Qu'est-ce que tu es en train de penser ? Et il nous est dit que si vous faites ça, ce que vous avez appris, verset 9, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, faites-le. Et de nouveau, une promesse, cette fois-ci, non pas la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence sera avec vous, mais cette fois-ci, il dit, et le Dieu de paix sera avec vous. La paix de Dieu ou le Dieu de la paix, bien, il y a, c'est pas que ce soit deux choses différentes, mais il y a comme une progression. C'est Dieu lui-même maintenant. Alors nous voulons orienter nos pensées sur Dieu. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire. Jésus a dit d'aimer le Seigneur, notre Dieu, de toute notre force, toute notre âme et toute notre pensée. Donnons-lui nos pensées. Faisons-le le matin. Disons, Seigneur, je veux te glorifier dans cette journée. Prends ma vie, aide-moi et je veux que toutes mes pensées soient à ta gloire. Il y a des fois des pensées qui viennent, qui veulent venir en nous, mais nous savons qu'elles ne sont pas à nous. Nous les refusons au nom de Jésus et nous voulons que nos pensées soient à la gloire de Dieu. Amen.